Dom Théo. Dom Théo, un dialogue théologique avec les dominicains de Toulouse.
Frère Édouard, bonjour.
Frère Philippe, bonjour.
Nous avons évoqué lors de notre dernier entretien cette idée d'une humanité constituée pécheresse en disant que le péché originel n'est pas d'abord pour nous un acte, mais une situation, c'est une situation de péché, une situation pécheresse qui nous conduit à effectivement pécher, poser des actes de péché, mais au départ c'est une situation pécheresse. La question finalement qu'on peut entendre se poser, c'est, on dit donc ce péché se transmet. Tu parlais d'ailleurs même de contracter, c'est quelque chose qu'on a contracté, se transmet. Mais du coup, il y a un peu cette question, le fait que le péché se transmette, on va pouvoir entendre des gens dire, mais alors est-ce que ça discrédite l'acte de génération humaine ? Est-ce que, alors le catéchisme de l'Église catholique pose la phrase, comment le péché d'Adam est-il devenu le péché de tous ses descendants ? Par quelle transmission finalement ?
Oui, alors il faut comprendre d'abord que Adam est chef de toute l'humanité et par le fait, tous ses descendants, d'une certaine manière, sont marqués par ce qu'il a réalisé en lui. Il est comme l'unique corps d'un homme unique. Nous sommes, nous, l'unique corps d'un homme unique, c'est-à-dire nous sommes marqués par lui. Saint Thomas dit « loco totius humane nature », il a agi au nom de tout le corps. Et il a fallu un nouvel Adam, nous l'avons vu la dernière fois, pour, d'une certaine manière, réparer et redonner une identité à travers ce nouveau chef qui va pouvoir nous conduire à la sainteté qui a été perdue. Nous avons perdu non seulement la sainteté d'origine, mais même la justice originelle, c'est-à-dire que notre nature s'est, d'une certaine manière, atrophiée dans des éléments très importants comme les forces naturelles. Nous sommes soumis à l'ignorance, à la souffrance, à la mort. Tous ces éléments font que notre nature n'est plus ce qu'elle était à l'origine. Et ça, Adam nous le transmet. Mais évidemment, la génération du coup physique que des parents que des parents vivent pour engendrer des enfants, eh bien, c'est évident que à chaque fois qu'il y a un nouvel enfant, il y a cette transmission, cette propagation. Mais ça ne veut pas dire que en soi l'acte générateur est mauvais, mais c'est tout simplement une sorte de raccourci qui a été souvent mis en valeur par certains courants du passé, de dire que l'acte générateur, puisque les enfants sont marqués par le péché originel, cet acte générateur lui-même est mauvais. C'est un raccourci de pensée. Alors qu'en fait, nous sommes tous dépendants d'Adam, parce que Adam aurait-il eu des enfants sans la génération naturelle, comme c'est une hypothèse à un moment original de Grégoire de Nice, que aurait pu avoir des générations directes sans passer par la génération physique. Eh bien, imaginons que Adam aurait pu continuer à avoir ce moyen de propagation, mais qu'il aurait fait le péché originel. Eh bien, le péché originel se serait quand même transmis, même sans l'acte de génération naturelle. Donc, je dirais, c'est greffé en plus sur ce problème, le fait que la concupiscence est marquée par le foyer du péché. Alors évidemment, on a vite fait, si vous voulez, de faire un amalgame entre foyer du péché, transmission du péché originel. Et en fait, il faut bien distinguer les choses pour ne pas mêler. L'acte de génération, l'Église ne cesse de le répéter, est un acte bon, parce que tout ce que Dieu a fait est bon, et même très bon, puisqu'il est attribué à l'homme dès les premiers jours. Donc il ne faut pas, d'une certaine manière, calomnier la nature, mais considérer que malheureusement, elle est fragilisée. C'est ça la grosse différence. La nature est bonne, mais elle est fragilisée. Il y a une belle expression de saint Thomas qui dit que nous sommes devenus blessés dans nos réalités naturelles et spoliés dans les réalités surnaturelles. Les réalités surnaturelles, c'était quoi ? C'était la grâce, la justice originelle, c'était cette sainteté qu'avait Adam. Tout cela, nous l'avons perdu d'un coup, mais en même temps, malheureusement, nous sommes devenus blessés dans nos réalités naturelles. C'est-à-dire que l'acte de génération est souvent déviant à cause de cette déviance. Bien qu'il soit bon en lui-même, il est marqué par la concupiscence. Et de ce point de vue-là, il est marqué par une certaine forme de péché dans des actes qui sont impurs à ce moment-là. Mais un acte fait dans le cadre de la génération, dans un couple qui s'est uni d'une manière sainte aux yeux du Seigneur, ça ne peut être que très bon. Voilà. Il faut bien le redire souvent parce qu'il peut y avoir toujours des relents mépris de la chair, il peut y avoir des relents de jansénisme, des relents de courants qui finalement veulent vivre comme à la manière de ce qu'on appelait les bons hommes, les albigeois dans ces terres autour de Toulouse et qui finalement méprisaient la chair puisque les parfaits, comme on les appelait, étaient ceux qui n'avaient plus de génération et ne posaient plus l'acte conjugal. Et donc, évidemment, ils se seraient éteints par eux-mêmes, puisqu'ils n'engendraient plus rien. Il aurait suffi de les laisser dans leur secte, et la secte aurait disparu d'elle-même. Il n'était pas nécessaire de faire une croisade contre eux.
En quelque sorte, finalement, la question, c'est ce que tu exprimes bien là, la question est posée, c'est plus un certain nombre de chrétiens qui risquent d'être très mal à l'aise avec la question de la sexualité. Et on pourrait dire, si tu veux te débarrasser de ton chien, tu dis qu'il a la rage.
Voilà,
c'est un peu ça, finalement.
Finalement, c'est exactement ça. C'est cette espèce de mépris de la chair. Et nous autres religieux, nous ne nous engageons pas sur un mépris de la chair. Au contraire, nous aidons des couples, en tant que prêtres, nous les aidons à fonder des foyers. Nous avons une admiration pour cette transmission de la vie qui va faire des enfants à l'Église. Donc nous ne sommes pas du tout en révolte, nous ne sommes pas des révoltés contre la chair quand nous rentrons dans la vie religieuse, mais parce que nous assumons la condition de Jésus-Christ, pauvre, chaste et humble, pour un amour qui veut aller au plus loin dans la façon dont Jésus a voulu le vivre pour mieux ainsi produire du fruit pour le royaume. Jésus souhaite que nous puissions donner un fruit surabondant. Et donc on comprend très bien que cette situation qui est la nôtre n'est pas facile, mais nous pouvons voir que le combat que nous avons à mener est un beau combat, est un combat de sainteté, et que nous n'avons pas à baisser les bras. Nous avons toutes les armes spirituelles pour mener ce bon combat que le Christ nous a appris à mener. Lui-même a accepté d'être tenté au désert, bien qu'il n'ait pas eu à vivre toutes les conséquences du péché originel en lui-même. Il n'avait pas le foyer du péché, mais il a voulu que sa volonté, son intelligence soient soumises aux attaques du malin. Et ces fameuses trois tentations qu'il a vécues au désert montrent qu'il a été vainqueur. Et nous pouvons donc être vainqueurs avec lui. C'est pas pour rien qu'il dit un moment à ses apôtres, « Courage, j'ai vaincu le monde. » C'est-à-dire que ces tentations ne sont pas des fatalités qui feraient que nous serions des vaincus a priori. Nous pouvons être sûrs de la force du Seigneur, que ce soit la concupiscence de la chair qui est marquée un peu par, dans le fond, la transformation des pierres en pain. Il y a la concupiscence de, dans le fond, de cette sorte de montée de l'intelligence qui croit que, en étant religieux et en se précipitant du haut du temple, on va être aidé par les anges, une sorte de tentation qui est une démesure par rapport à nos limites et une sorte de démesure religieuse que le démon lui suggère. Et puis la puissance, après le savoir, la puissance, eh bien, il y a dans la dernière tentation la volonté du diable de lui faire dominer tous les royaumes de la terre. Et Jésus dit non, là aussi. Donc dans les trois dimensions, Jésus a voulu que ce soit l'avoir, le pouvoir et le savoir. Il a voulu montrer qu'on était capable d'être vainqueur par sa toute-puissance.
Une question me vient. Tout à l'heure, donc on disait il y a une transmission de ce péché originel qui se fait en Adam. Et il a fallu un nouvel Adam pour rattraper cela, donc le Christ lui-même. Je me disais, là en revanche, on ne va pas pouvoir parler de transmission de ce salut, puisqu'il y a une sorte de recréation.
Recréation, exactement. Alors, il y a une recréation, c'est vrai, et cette recréation, eh bien, est donnée gratuitement, comme la création. Et nous pouvons vraiment la recevoir par le baptême. C'est-à-dire que le baptême doit être cependant transmis. On ne peut pas s'auto-baptiser. Donc il faut quelqu'un qui vienne verser de l'eau sur votre tête pour que vous soyez généré. Donc il y a vraiment une propagation. Mais une propagation qui n'est plus charnelle, qui est uniquement spirituelle et qui fait que elle est réelle. Et elle passe par l'eau du baptême, elle passe par donc un élément concret, elle passe par les paroles de Jésus. Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et nous avons donc cette certitude que la grâce ineffable du Christ nous a donné des biens meilleurs que ceux que l'envie du démon nous a ôtés, comme dit très bien le grand Saint Léon, cité au numéro 412.